un regard sur la nature.
Bonjour, c'est Camille, bienvenue sur RVM 93.7, la radio qui aime la nature. Dans votre émission, Un regard sur la nature, où on parle de divers sujets, que ce soit sur la biodiversité en général. Le temps de 30 minutes, et ce, deux fois par mois. Alors, bien sûr, il y a Daniel qui co-anime avec moi. Bonjour Daniel.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Alors, lors de la précédente émission, nous avions reçu Éric Morel. Bonjour Éric.
Bonjour.
Qui nous parlait des chauves-souris, de vraiment la découverte des chauves-souris.
Effectivement.
Il y a tellement de choses.
Nous a donné énormément de détails, mais il y a tellement encore à faire et à expliquer que on n'a pas pu faire autrement que de l'inviter à nouveau.
Non, vous avez raison, il y a matière à dire encore.
Vous avez un travail à côté, mais vous êtes chiroptologue.
Chiroptérologue.
Oh, bon, ça y est, si je coupe des morceaux en plus.
Alors, oui, et on ne l'a pas dit lors de la précédente émission. Chiroptère, c'est un synonyme de chauve-souris. Et ça paraît un peu un terme scientifique, en fait, c'est très simple. Chiro, c'est la main, donc on retrouve chez le chiropracteur, notamment, ou la chiromancie, quand on lit dans les liseuses dans les lignes des mains. Chiroptère, c'est la main ailée. Tout simplement. Et l'aile d'une chauve-souris, c'est des doigts.
Elle en a 5 d'ailleurs, il me semble.
5 doigts. Ouais. Et il y en a 4 qui sont reliés par une membrane. Le pouce, il est un petit peu autonome, il est tout seul. Et voilà, qui sont reliés par la membrane et ça lui fait une aile. C'est vraiment comme une main, c'est impressionnant. On a une représentation d'un squelette de chauve-souris et qu'on le met en face d'un squelette humain. Il n'y a que ça qui diffère. C'est comme si nous, on allongeait nos doigts de 2 mètres et on réduit un peu nos bras. Hop, on est une chauve-souris.
Donc voilà, on va lancer là-dessus, justement, comme ça ressemble pas mal à la main d'un homme, d'un être humain en général. On rappelle bien sûr, ce sont des mammifères volants. C'est le seul mammifère volant. Ce ne sont pas dans la catégorie des rongeurs ni des oiseaux. Ce sont des mammifères volants.
Tout ce squelette, ces ossements, on peut les voir aussi dans des fossiles, Eric.
Oui, alors l'origine des chauves-souris, la plus vieille chauve-souris connue actuellement, il faut faire de la paléontologie, l'étude des fossiles, et c'est une chauve-souris qui a
55 millions d'années.
Voilà. Mmh. Alors on a retrouvé, des scientifiques. C'est pas Daniel et moi qui avons retrouvé ça.
Mais... Oui.
Il a été retrouvé des fossiles aux États-Unis d'une chauve-souris qui est qui ressemble trait pour trait aux chauves-souris qu'on a actuellement. C'est la plus ancienne chauve-souris qui a été trouvée. Ce qui veut dire qu'on n'a pas les maillons d'avant. On ne sait pas concrètement l'évolution des chauves-souris. Il y a une méconnaissance. Parce que on n'a pas trouvé. Il y a plein d'autres espèces où on peut remonter. On voit des choses qui s'apparentent. On peut trouver des cousins du cheval. On peut remonter très très loin. On voit des évolutions dans des squelettes. On se dit, ah tiens, ça s'est transformé en cheval. Chez la chauve-souris, on ne sait pas. La plus vieille chauve-souris ressemble à nos chauves-souris actuelles.
Alors, je pense... Ouais, alors, je me suis documenté un peu. Hein. Vraiment, elle présenterait une petite griffe minuscule sur l'index, cette fameuse chauve-souris. Donc, elle s'appellerait Icaronicteryx index à cause justement de cette griffe sur la chauve-souris.
C'est en X.
Non, elle a été découverte, comme le dit Eric, aux États-Unis. Cette chauve-souris, et comme tu le dis, je crois que on n'a pas de connaissances plus poussées sur leurs ancêtres.
Non, il n'y a pas de...
On n'a aucune trace avant.
Non, aucune trace.
Voilà,
Ah tiens, j'avais une petite question. Oui. Comme je disais que c'était peut-être une gauloise, mais vu qu'elle provient des États-Unis, les chauves-souris ne font pas des migrations, elles restent dans le secteur.
Ah, c'est une très bonne question. Et si, elles migrent. Il y a certaines espèces qui qui sont migratrices. Pour s'en rendre compte, ben, c'est de nouveau, comme on disait la dernière fois, les programmes de bagages qui ont permis de s'en rendre compte avec notamment des espèces, je pense à la pipistrelle de Natusius. Alors, Natusius, c'est une des personnes qui les a étudiées au début du... au 19e siècle. Oui. Un individu qui a été bagué au Danemark et qui a été retrouvé, je crois, dans le sud de la France. Donc il y a des mouvements assez importants et il y a certaines espèces qui sont clairement migratrices. On les retrouve sur nos enregistrements. Il y a des périodes où il y a des espèces qui apparaissent en automne, enfin fin d'été, on a des espèces qui sont présentes sur nos enregistrements et qu'on n'avait pas le reste de l'année. Et après, elles sont de manière générale plutôt cantonnées, mais elles peuvent être... Elles sont mobiles, elles ont des ailes, elles se déplacent beaucoup. Et donc elles sont erratiques. Si elles ont en plus de quoi se déplacer, donc un paysage qui leur permet de se déplacer, donc je pense aux haies, ça leur fait un repère, comme elles se déplacent avec un système de sonar qu'on va évoquer peut-être tout à l'heure. Elles voient ce qui se passe. S'il n'y avait pas de haies, bah, ça fait des zones où elles ne peuvent pas se déplacer. Donc elles se déplacent beaucoup, et soit en migration ou quand elles ne migrent pas, elles peuvent se déplacer régionalement.
C'est l'écolocalisation. L'écolocalisation, c'est une chose, ce sont des sons que l'on peut enregistrer. Par contre, est-ce que la chauve-souris, quand elle est dans une cavité, en groupe, est-ce qu'elle peut communiquer? Est-ce qu'elle pousse des cris?
Alors, elles ont plusieurs types d'émissions sonores. Et le fait de dire écolocalisation, c'est intéressant, parce que c'est un terme qui n'est pas tout à fait juste.
Oui.
Mais ça permet de bien comprendre ce qu'elles font. Elles se localisent avec un écho. Donc, c'est le système du sonar. Le vrai terme, c'est l'écolocation.
L'écolocation.
Oui. Et donc, elles émettent...
Pas en deux mots,
en un seul mot.
En un seul mot.
Ouais, l'écolocation. Elles émettent un cri, et quand cette onde sonore va toucher un obstacle...
Ça va rebondir.
Ça va rebondir, et elles vont recevoir l'écho en retour, et elles vont, leur cerveau a la capacité de savoir à quelle distance se trouve l'obstacle. Un obstacle ou une proie.
Et ça va très vite.
C'est incroyable. Et du coup, dans les cavités, ou pas que dans les cavités, hein, même quand elles se déplacent en volant, on peut entendre les cris d'écolocation, et on peut aussi entendre, donc avec des appareils, on peut aussi entendre des cris sociaux, donc elles discutent en quelque sorte entre elles. Et dans les gîtes, c'est pareil, il va y avoir des cris de communication qui sont sur d'autres gammes de fréquences, qui peuvent même aller, donc elles émettent dans les ultrasons, c'est super important, on ne l'a même pas dit, mais ouais. C'est des ultrasons, donc les ultrasons, c'est à partir de 20 000 Hz, donc 20 kHz, l'oreille humaine est plus sensible à ces fréquences-là. Il y a certains cris sociaux qui sont émis sur 13, autour de 13 kHz. Il y a certaines espèces qui font de l'écolocation. Même moi, j'en perds mes mots. L'écolocation dans des gammes audibles par l'homme. Voilà, même chez nous, hein, même à Crépy-en-Valois, on peut entendre des cris.
Alors, on entend parfois, oui.
Ouais, des cris sociaux, pardon. Des cris sociaux. L'écolocation pour les espèces par chez nous, on l'entend pas, c'est pas audible. En Corse, on peut entendre je pense au molosse de Cestoni, c'est le nom d'une espèce, qui émet sur 9 kHz. Donc 9 kHz, c'est audible, c'est très très aigu, mais donc on entend des crépitements comme ça dans le ciel.
Ouais. Bah justement, comme vous lancez sur ces cris, ces ultrasons, on va peut-être écouter un petit passage.
Allez.
Qu'est-ce qu'on entend là ?
Alors, là, on entend un son artificiel. Parce qu'on ne peut pas entendre une chauve-souris. C'est ce qu'on disait juste avant. Donc, ce qu'on entend là, c'est un son qui est produit par un appareil qui fonctionne un petit peu comme une radio. J'ai un écran avec un écran digital où je vais me régler sur une fréquence de chauve-souris. Donc, comme elles se répartissent la gamme de fréquences, elles se la partagent. Là, c'est une espèce qui émet avec un pic d'énergie sur 45 kHz. Et donc, moi, mon appareil, je le règle comme une petite radio sur 45 kHz. Et lui, si la chauve-souris, elle émet pas que sur 45 kHz, ça va émettre de 70 jusqu'à 45. Elle fait un pic d'énergie à 45 kHz. Et donc, la différence entre le son qu'envoie, l'ultrason qu'envoie la chauve-souris et le réglage que j'ai fait sur mon appareil va provoquer un petit bruit, les bruits qu'on entend, les tic 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 tic, ces bruits-là. Et si je me règle pile sur 45, le bruit va faire va être un petit peu plus grave. Et je peux essayer, en tournant la molette, il y a certaines espèces qu'on peut déterminer juste avec ce son artificiel. Et donc, ce qui est intéressant dans ce son, c'est qu'on va pouvoir apprécier l'activité de la chauve-souris. Si elle avait émis s'il n'y avait pas d'obstacle autour d'elle, elle n'aurait pas émis autant de sons. Là, il y a plein de cris. Et donc, soit il y a un obstacle, donc elle peut être le long d'un mur, le long d'une lisière.
Au milieu des branches.
Au milieu des branches. C'est un son que j'ai peut-être enregistré dans le parc de Jérém, je ne sais plus. Et donc voilà, on peut apprécier la récurrence des signaux, savoir ce qu'elle faisait. Elle peut aller jusqu'à, là sur un son comme ça, c'est peut-être qu'elle émettait un cri toutes les 70 millisecondes. Voilà, l'activité de chasse.
Toi, ces sons, tu les mets sur ton ordinateur, sur ton PC, et tu as un logiciel qui te permet justement d'analyser. Il y a des appareils avec lesquels on peut, par exemple, lors de la nuit de la chauve-souris, on peut régler dessus pour entendre les petits claquements, par exemple pour la pipistrelle commune.
C'était une pipistrelle commune, là, certainement.
Et toi, par contre, l'appareil que tu possèdes te permet en plus d'enregistrer les sons, de les mettre sur ton PC, et là, vraiment, tu vas les analyser.
Oui, je peux les visualiser. Donc, ça nous donne sur un graphique, donc j'ai tous les cris qui s'affichent et ça ressemble à des petites virgules et je vois dans la gamme de fréquences. Alors les virgules, elles peuvent être différentes, la forme est différente en fonction des espèces. Donc il y en a, c'est très simple, ça fait une crosse, vraiment ça fait une belle virgule en forme de crosse. Et si c'est sur 45 kHz, il n'y a aucun doute, c'est la pipistrelle commune. Et voilà, après les 34 espèces on peut essayer de déterminer comme ça. Bon, ce serait trop simple, hein. Si c'était si simple, ce serait trop simple. Donc, parce qu'elles vont être en recouvrement, les espèces entre elles. Et après, à nous de voir en fonction de si elles se rapprochent d'un obstacle, elles vont émettre un cri un petit peu différent. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de les écouter différemment. Et pour les écouter différemment, on va les ralentir par 10. Et si on ralentit un ultrason par 10, eh ben, ça va devenir un son.
C'est plus un ultrason.
Hein. Bah ouais. Ouais, c'est ça. On se retrouve avec le son qu'on a. Si on le ralentit par 10, on était à 45 kHz, on va passer à 4,5 kHz. Et on se retrouve avec des petits sifflements.
Ah ouais.
Et
le second son justement va écouter, c'est celui-là,
c'est celui-là.
C'est celui qu'on peut entendre à l'oreille humaine en fait.
Ah non, non même c'est pas, celui c'est, qui celui est ralenti par 10. Ouais.
D'accord. Bah, on l'écoute tout de suite.
Allez.
Alors je vous préviens, ce n'est pas un oiseau, hein. C'est bien une chauve-souris.
Ouais. Comme on peut se faire l'oreille pour...
Là, c'est que tu as déréglé...
Non.
Non, même pas.
Là, j'allais dire quelque chose sur les oiseaux, justement, comme on peut s'habituer et reconnaître les oiseaux grâce à leur chant. Et ben, en ralentissant par 10 les ultrasons de chauve-souris, les émissions sonores de chauve-souris, on peut, à force, juste en entendant le son, enfin, l'émission sonore en expansion par 10... Là, ce qu'on vient d'entendre, on peut savoir ce que c'est. L'oreille s'habitue à force. Et donc l'analogie avec les oiseaux, c'était pas un oiseau ce qu'on a entendu, mais ça nous permet après d'identifier juste en les écoutant. Là, ce qu'on vient d'entendre, on a une capture d'insectes dans l'enregistrement qu'on vient d'entendre. On entend les sifflements, et d'un coup, ça s'accélère.
Ouais. Sur la fin, ouais.
Et donc le principe, c'est d'émettre un signal, elle voit ce qui se passe, en retour elle a un écho, et si l'obstacle se rapproche, eh ben, pour voir un peu mieux, elle envoie davantage de cris. Donc ça va affiner l'image qui se fabrique dans son cerveau grâce à son sonar. Et s'il y a un insecte, ben c'est tout petit, donc il va falloir être très très précis pour localiser l'insecte. Donc elle va envoyer beaucoup plus de cris et sur une gamme de fréquences plus large. Ça va affiner l'image. Et s'il y a zéro obstacle, elle émet dans très peu de fréquences et une récurrence très faible. Enfin, c'est...
Moi, je me souviens lors des animations soirée de la chauve-souris avec toi, on avait des petits appareils qu'on se prêtait, on réglait pour rechercher la pipistrelle commune. Et effectivement, il y avait ce petit claquement qui commençait doucement et qui s'accélérait de plus en plus, et d'un seul coup, une rupture totale. Et là, on pouvait dire que la chauve-souris avait capturé son insecte.
Et oui, parce que les chauves-souris sont bien élevées et elles ne parlent pas à la bouche pleine. Et on l'entend. Non, c'est vrai, on l'entend vraiment. Quand elles font une capture et d'un coup, il ne se passe plus rien. Alors, comme c'est ralenti par 10, en fait, il ne se passe plus rien sur quelques microsecondes. Mais ouais, elle ne parle pas à la bouche pleine, donc on entendait une absence de son après la capture.
Donc avec tout ce que tu nous expliques, Eric, on commence à trouver la chauve-souris sympa.
Oui, oui. Hein, c'est sympa. En plus, elle fait tout, elle vole, elle peut même nager. J'ai vu des vidéos où elle pouvait nager, elle grimpe, elle fait plein de choses. Hein. Ah non, je t'ai... Là,
non, mais c'est le kinage.
Elle arrive à nager un petit peu. Enfin,
Oui, si, j'ai une image là qui me vient, mais les nôtres, je crois pas qu'elles sachent nager.
C'est les plus grands formats, je pense.
Ouais, des grandes chauves-souris, j'en ai. Ouais, sans doute. Bon, j'ai parlé tout à l'heure qu'il y en a qui couraient, alors qu'elles puissent nager. Des vrais athlètes, ces chauves-souris, finalement.
Elles savent tout faire.
Ouais. Ah, si c'est une vampire, il faut courir vite.
Justement, bon. On va parler des clichés. Hein.
Les clichés, alors, ce que je voulais dire, c'est que on commence à la trouver sympathique. Néanmoins, elle a toujours généré des craintes. Et ça ne remonte pas d'aujourd'hui. Donc, il y a eu toujours beaucoup de légendes et superstitions. Moi, je peux avoir une image, peut-être, qui remonterait au Moyen-Âge.
T'es si vieux, Daniel.
Comment ?
Ah, pardon, non.
Donc, est-ce qu'elles ont toujours inquiété ? Est-ce que c'est vrai que cette image était souvent liée au diable ? Est-ce que l'hirondelle était liée à une autre entité sous le Moyen-Âge ?
Hirondelle ? La chauve-souris, tu veux dire ?
L'hirondelle ? L'hirondelle ?
Ah, l'hirondelle.
L'hirondelle,
oui.
Dieu au Moyen-Âge.
Ah,
Dieu,
pardon, oui.
Et Satan, la chauve-souris, qui était aussi apparemment clouée comme des chouettes. Sur des portes.
Ben oui. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois, de nouveau, ce qui se passe la nuit. Les chouettes ont été clouées sur les portes, les chauves-souris. Le monde de la nuit, c'est le monde des
du morts, mal, l'obscur.
Oui, voilà, mais c'est ça. Hein.
Ça représente la mort, peut-être.
Ben ouais,
Satan, etc.
Pas de chance pour ces animaux. Alors, c'est pas comme ça partout sur la planète. En Chine, quand on fait la fête, il peut y avoir des guirlandes faites pas faites en chauve-souris,
oui.
Mais c'est une forme de chauve-souris. D'ailleurs, le mot chauve-souris, je suis pas fort en chinois d'ailleurs, mais bon, c'est un mot qui ressemble beaucoup au mot bonheur. Et je crois que ça doit se dire quelque chose comme fou, quelque chose comme ça. Chez nous, c'est pas du tout ça. Et donc il y a cette histoire qu'elles se prennent dans les cheveux, mais avec ce qu'on vient de dire sur les colocations, elles nous voient tellement bien qu'elles peuvent pas se prendre dans nos cheveux. Donc ça c'était surtout pour pas que les jeunes filles sortent. C'est vraiment de la légende.
Donc on retrouve aussi des traces dans l'Armeia, par exemple. dans différents autres pays d'Amérique centrale. C'est vrai que les représentations des chauves-souris est différente. Nous, c'était plutôt lié au diable, la peur de la nuit, la peur de tout ça. Certains autres pays, l'effet, c'est plutôt un effet positif.
Oui. Mais on a dit aussi, même dans nos campagnes, quand il y a une chauve-souris qui volait autour de la ferme, moi, ma grand-mère m'a raconté des choses comme ça, que c'était signe de mort. Mm. Et bien, si on regardait tous les soirs, c'était un signe de mort, finalement, parce que les chauves-souris, elles sont là toutes les nuits. Donc, c'est vraiment une erreur de penser ça. Ouais.
On leur attribue aussi des vertus maléfiques, j'ai pu lire. Ce sont des animaux nocturnes capables de voir la nuit. On disait que ces animaux avaient la capacité de rendre la vue aux aveugles, par exemple, si leurs yeux étaient appliqués sur la tête des malades. Bon, on capturait les chauves-souris, les sorcières, hein,
oui.
Les sorcières, pour appliquer sur la tête des malades. Et puis, voilà pourquoi ces chauves-souris étaient aussi beaucoup détruites.
Malheureusement, oui. Mais je savais pas sur l'histoire avec les personnes aveugles. Juste pour parler de la chauve-souris, elle n'est pas aveugle. C'est une des croyances hein, aussi. Mm-hmm. Elle n'est pas, c'est pas mythique, enfin mystique, mais les chauves-souris ne sont pas aveugles. Elles voient même plutôt bien, hein. Mais elles ont un autre sens beaucoup plus développé pour s'orienter. Si ça se trouve, les chauves-souris, elles doivent penser qu'on est sourd.
Mmh.
Elles entendent tellement bien que.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et nous, on s'oriente
elles
pas avec.
Se dire ça.
Bah ouais, on s'oriente pas avec nos. On s'oriente pas avec nos oreilles. Nous.
Alors les gens des superstitions, il y a aussi le chapeau qu'on lance en l'air et la chauve-souris qui va foncer direct dedans, par exemple.
Ah ben bah, ça c'est vrai.
Hein.
Ouais. Et comme elles s'orientent avec des ultrasons, si on et qu'elles sont curieuses, et ben quand on en voit une passer, si on lance quelque chose en l'air, un chapeau. Eh ben, elle va regarder ce qui se passe, et elle va venir voir ce qui se passe. Et donc ça...
Ça, c'est vrai. Donc elle peut être prise dans un chapeau.
Elle n'est pas prise dans un chapeau, mais elle va voir...
Elle va s'en approcher.
Elle va s'en approcher, elle voit qu'il y a quelque chose qui est venu dans son champ de vision sonore, et elle vient voir ce qui se passe.
Petite pause micro-trottoir pour avoir les réactions des auditeurs sur ces clichés, justement.
D'accord.
Qu'est-ce que vous pensez du cliché par rapport à la chauve-souris qu'on peut voir dans les films Dracula ou les séries Batman et compagnie.
Oui, c'est pas le genre de film que je regarde, mais bon, la chauve-souris, c'est un animal comme un autre. Bon, ce que je sais sur la chauve-souris, c'est que c'est un animal qui vit la nuit. Et puis, je connais pas trop le sujet quand même. Honnêtement, je connais pas bien. Ouais.
Il rend service quand même, il n'est pas nuisible. Hein. C'est un animal qui sert pour la nature et tout ça quand même. Hein. Il vit la nuit, mais il a une raison de vivre la nuit. Et puis, je trouve qu'il est, il sert beaucoup à la nature. Enfin, d'après ce que j'ai vu dans certains films et tout ça. Hein.
Par rapport à la biodiversité, manger des insectes.
Manger des insectes et tout ça, donc il rend service à la nature.
C'est du cinéma, c'est tout. Ouais, que du cinéma.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des chauves-souris comme ça qui sucent le sang?
Alors, je sais par avoir vu des documentaires à la télé, qu'il y a des chauves-souris, effectivement, qui sucent le sang des animaux, mais peut-être pas dans notre région.
Non, voilà. Pas, même dans notre pays, pas chez nous.
Pas chez nous, donc c'est sûr. Voilà, bon, ça rassure.
Je trouve ça un peu rigolo, quoi, dans le sens où c'est un animal qui est noir, enfin, qui est dans les couleurs noires, sombres, qui sortent la nuit, voilà, donc ça fait un peu peur, on va dire. Mais sur le principe, je trouve ça sympa, en fait, la comparaison. C'est pas, je sais pas comment expliquer, ça me fait plus rire qu'autre chose, en fait, de dire, voilà, avec l'histoire de Batman, justement, là, qui sort la nuit, avec l'éclairage dans le ciel, choses comme ça, c'est sympa, quoi.
Et ce petit cri un peu sourd, ultrasons et tout, ça choque peut-être les gens, ça les surprend, c'est peut-être ça aussi qui leur fait peur par rapport aux chauves-souris.
Ouais, peut-être. Alors après, bon, y a des animaux quand même qui font des bruits un peu plus stridents, des choses comme ça qui font largement plus peur. Mais c'est peut-être ça. Après, c'est un bruit. Enfin, moi, j'entends pas forcément toujours parce que par chez moi, j'en ai pas forcément beaucoup. Mais ça peut faire peur à certains. Mais moi, ça me fait pas peur en tout cas.
Les questions des auditeurs à notre expert.
Juste simplement savoir combien il y a d'espèces de chauves-souris dans notre région et puis les noms.
On en a parlé un petit peu dans une émission précédente, mais...
On cite les noms des 34 espèces Non, peut-être pas.
Ça fait beaucoup, ouais.
Non, mais on en avait parlé, effectivement, 34 espèces. Alors, dans notre région, C'est peut-être plus ça la question.
Dans notre région, oui.
La région, donc Picardie, on va avoir 21 espèces. Et dans l'Oise, 17 espèces. Et les plus communes, à Crépy-en-Valois, eh ben, ça va être la pipistrelle commune. Et ensuite, on doit pouvoir trouver la sirotine commune. Il doit y en avoir quelques-unes. Dans le parc de Jérém, des noctules, une espèce arboricole. Et après, on a toute la famille des murins, ou vespertilions. Et au-dessus, il y en a une qui est assez facile à voir. Au-dessus de l'eau, donc au parc de Jérém, on doit pouvoir observer le murin d'Aubenton qui va chasser des insectes à la surface de l'eau. Alors, on peut voir d'autres espèces. Hein. Vous allez peut-être voir une pipistrelle qui vient boire à la surface de l'eau. Mais le murin d'Aubenton, lui, il va faire que des allers-retours au-dessus de l'eau pour chasser ses proies. Là, on a le petit rhinolophe aussi, qui est une espèce emblématique, parce qu'il a un statut... elles ont toutes le même statut, donc elles sont toutes protégées, les espèces de chauves-souris en France.
Oui, depuis 1981, il y a une loi, c'est ça?
Depuis 1976?
Ah, j'avais entendu 81, mais après, peut-être que ça a été remodelé, je ne sais pas.
Je vérifierai. Mais il doit y avoir peut-être un article qui a mis à jour en 81. On a le petit rhinolophe. Ouais. Lui, il est assez... on le retient facilement parce qu'il s'enroule dans ses ailes. Sinon, les chauves-souris, quand elles se posent, elles se mettent donc la tête en bas et elles ont les ailes le long du corps. Mmh. Et il y a deux espèces qui s'enroulent vraiment dans leurs ailes, un peu comme Dracula.
Voilà, c'est ce qu'on trouve dans les films de Dracula. Ouais, ce sont ceux-là qu'on voit. D'ailleurs, dans le parc de Jérém, derrière le refuge, il y a une grotte. Maintenant, vous pouvez voir des barreaux, donc on appelle... ça a été créé exprès pour laisser entrer et sortir les chauves-souris. Donc c'est un barreau d'âge spécifique. Les dimensions ont été calculées pour laisser entrer et passer les chauves-souris. Donc dedans, effectivement, il y a eu le petit rhinolophe, il y a eu des murins.
Ouais. Ça permet d'éviter les dérangements.
Pas nombreux, parce que en fait, la grotte n'est pas très profonde, donc il peut y avoir, je pense, des variations de température et une circulation d'air qui peut les gêner pendant l'hiver.
On entendait dans les micro-trottoirs qu'elles sont intéressantes pour la biodiversité, elles sont reconnues pour ça, protègent une espèce pour protéger son habitat aussi. En fait, quand on a une présence de chauves-souris, ça veut dire que le reste de l'environnement est plutôt bon. Elles sont en haut d'une chaîne alimentaire, on parle d'espèces parapluies, donc on protège cette espèce-là pour protéger le reste, et pour protéger des habitats. On n'a pas le droit de détruire une espèce protégée, on n'a pas le droit de détruire l'habitat d'une espèce protégée. Et donc ça a de l'utilité de les protéger. Et si on veut rester sur l'utilité, les chauves-souris, c'est super insecticide. Et si vous en avez chez vous, vous pouvez récupérer leur crotte, qu'on appelle du guano. Et ben ça peut vous faire un super engrais.
On a 30 secondes, mais ce qui est très étonnant chez la chauve-souris, c'est notamment, justement, quand elle dort, elle a un tendon, elle a plusieurs tendons dans sa griffe et tout. Il y a un tendon, j'ai vu, fléchisseur, qui lui permet, quand elle est inactive, de dormir et de rester accrochée.
Oui. Quand elle est en hibernation, elle ne contrôle pas.
Et oui, et même quand elle dort, juste en hibernation ou la journée quand elle dort, elle n'a pas besoin de contrôler, de tendre des muscles. C'est juste un tendon qui, sous l'action du poids de la chauve-souris, qui est très légère, hein, la pipistrelle commune, elle fait entre 4 et 7, 8 grammes. Donc juste ce poids va tendre des tendons qui sont reliés aux griffes, et les griffes vont s'accrocher. Il faut imaginer, pour ceux qui connaissent cet outil, une pince à glaçons. Et ben, moi j'ai cette image en tête. Quand on appuie dessus, et ben, ça ouvre la pince, et quand on relâche, la pince se referme. Et ben là, c'est la même chose. C'est à un tel point qu'il y a des chauves-souris que j'ai retrouvées mortes en cavité, en fin de vie. J'espère que c'était juste ça, et non pas quelque chose dû à l'homme. Des chauves-souris mortes qui étaient suspendues, grâce à ce tendon. C'est assez étonnant.
Impressionnant.
Et elles se tiennent à l'envers parce qu'elles sont adaptées pour ça. Elles ont leur système sanguin qui est prévu pour. C'est l'évolution qui fait qu'elles sont comme ça. J'ai pas de raison plus... Souvent, on demande, mais pourquoi elles se tiennent à l'envers? Eh bien, elles sont comme ça.
C'est leur mode de vie, simplement. Merci beaucoup, Eric Morel, pour nous avoir donné encore de nouvelles indications sur
la
chauve-souris.
Merci de votre invitation.
Merci, Eric.
Merci, Daniel.
Merci, Camille.
Et puis, il y a tellement de choses à dire. Hein. On en parlera dans d'autres émissions, probablement.
Oui, et puis, on peut aussi dire à nos auditeurs que Si de nombreuses questions leur viennent, n'hésite pas à écrire à RVM pour poser leurs questions. Si les questions débordent, ben, peut-être qu'Eric qui voudrait bien revenir.
Allez, pas de souci. Il me reste des choses à dire.
Merci à vous.